Le jeu du dictionnaire.
Et le téléphone sonne encore dans le jeu du dictionnaire. Je suis désolé, c'est juste trop tard. Je reprends le micro. Mais on peut peut-être essayer de le prendre à l'antenne en direct. Ça va être la surprise. Oui, allô ? Vous nous entendez ? Bonjour, allô ?
Oui.
Oui, vous êtes en direct, hein. Je suis désolé, mais là, vous appelez sur le fil du rasoir.
D'accord.
Vous, salut, donc c'est le jeu du dictionnaire. Je rappelle juste les définitions du nom que nous cherchons ce soir, nom masculin, dispositif permettant de faire varier une intensité électrique, utilisé notamment avec certains appareils d'éclairage. Appareil permettant de transmettre le mouvement d'un arbre à un autre avec possibilité de modifier de façon continue la vitesse de rotation de ce dernier. Alors, est-ce que vous avez une idée ?
J'aurais pensé au variateur.
Eh bien, c'est un variateur, bravo.
Oh, énorme.
On avait déjà des gagnants ce soir, on a eu plusieurs appels, mais on va te laisser te présenter.
Ben, je m'appelle Arthur, je suis de Montluçon, j'écoute beaucoup Radio Vassilière depuis longtemps.
D'accord. Sur Internet.
Oui, sur Internet, oui, tout à fait. Donc il y avait le variateur, j'ai beaucoup hésité avec la mer Noire, mais je me suis dit que le variateur était plus probable.
Eh bien, c'est exactement le variateur. Tu es, on va dire, un des gagnants de ce soir. On a eu comme proposition aussi Resistor, qui n'était pas ça. Et on a deux personnes qui ont trouvé. On a Mathias, qui a été le premier à trouver le variateur. Et on a aussi Billy, qui a gagné.
Bon, ben, génial alors.
Eh bien, Arthur, c'est ça. Merci.
Exactement. Eh bien, de rien.
N'hésite pas à rappeler. À bientôt.
Avec grand plaisir. Bonne soirée.
Salut. Et voilà, c'est terminé pour le jeu du dictionnaire d'aujourd'hui. Plein de gagnants, plein d'appels. Bravo, n'hésitez pas à participer. Et il est maintenant 18h, ça va être l'heure de passer à la seconde partie du magazine.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière.
Et 18h01, seconde partie du magazine avec des thèmes variés ce soir. On va commencer par souhaiter la bienvenue à notre tout nouveau service civique, Martin, qui vient d'en commencer aujourd'hui à la radio. Martin, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ah, ça va bien, je suis plutôt stressé, c'est la première fois que je passe à la radio.
Bon, ça va, c'est pas trop compliqué ?
Non, ça va, ça se passe bien.
On va entendre Martin sur nos ondes, peut-être pas très souvent à l'animation du magazine, mais il va nous faire des jolis reportages, je crois que c'est ça, Martin.
Oui, c'est ça, on m'a engagé pour ça, donc je vais donner tout ce que j'ai, et je vais faire de très beaux reportages, c'est sûr.
Alors Martin, tu as quel âge ?
Moi j'ai 24 ans, et du coup j'ai fait des études de droit, j'ai sorti après 5 ans de droit, après mon master, j'ai décidé de devenir policier, enfin gendarme, et finalement... Il s'est révélé il n'y a pas très longtemps que ce n'était pas fait pour moi et du coup, je suis en pleine reconversion. Et du coup, me voilà à Radio Vassivière pour ce service civique jusqu'au mois, la fin du mois d'août.
Eh bien, bienvenue Martin.
Merci. Et je tiens à dire félicitations à Arthur qui a appelé, qui a réussi à trouver le variateur. C'est fort. De Montluçon, j'en connais un, Arthur de Montluçon. Je ne sais pas si c'est lui qui a appelé, mais il est très fort.
Eh bien, on passe bonjour à tous les Arthur de Montluçon.
Voilà.
Martin, eh ben, bienvenue à la radio, je le répète encore.
Merci beaucoup.
Et on te retrouve bientôt dans des reportages.
Merci, à bientôt tout le monde.
À bientôt, salut.
Salut.
Et le magazine, ça continue tout de suite.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière.
Avec les températures de ces derniers jours, à l'intérieur, la température a pu descendre aussi. J'ai croisé Adriano, migrant résident actuellement au CADA de Perlevade, qui a eu envie de nous dire comment la température peut descendre la nuit.
Essayer dans les CADA, dans les chambres, parfois il fait vraiment froid, et parce qu'on a des systèmes, on a des chauffages, mais le chauffage, ça chauffe pas bien le chambre. Ensuite, à partir des 22 heures, et ça s'arrête automatiquement. En plus, après, ça redémarre à partir des 3 heures, 4 heures, ça redémarre. Donc pendant tout ce temps-là, on reste vraiment dans le froid dans la chambre.
il y a un thermomètre à l'entrée de ta chambre. Et quelle température il peut y avoir, jusqu'à quelle température ça peut descendre?
Bon, et deux jours passés, quand je me suis réveillé, c'était à partir des heures, je me suis réveillé, c'est parce qu'il faisait froid. Je me suis allé voir dans les thermomètres, j'ai vu que les températures étaient trop bas. Il était à moins des 7, était 7 degrés, 7 à 5 degrés, que j'avais vu dans le thermomètre. Il faisait très froid, parce que normalement les chauffages, ça ne travaillait pas, ça ne fonctionnait pas, il était arrêté. Donc on a cette difficulté dans la chambre.
Là, il y a les volets fermés, donc s'ils ne sont pas ouverts, c'est pour garder la température dans la chambre?
Oui, les volets, je ne l'ouvre pas. Si je l'ouvre, ça va être vraiment comme si on est à l'extérieur. C'est pour cela que je le ferme et je ne l'ouvre pas. Les volets sont fermés. Mais il y a des endroits dans les volets, ça entre de l'air et ça fait du froid à l'intérieur, dans la chambre.
Bon, il fait pas froid tout le temps quand même. Il y a des moments où il fait bon. Tu nous rassures ou pas?
Oui, c'est pas tout le temps que ça fait froid. Mais dès qu'il y a la température à l'extérieur, il est normal, à l'intérieur aussi, on a une bonne température. Et dès qu'à l'extérieur, on a une température qui est trop bas, et nous aussi à la chambre, et comme les chauffages ne fonctionnent pas bien, donc on a aussi des difficultés. Mais pour le moment, on est bien, parce qu'à l'extérieur, aujourd'hui, il y a du soleil, et la température aussi est bien, et je pense qu'à la chambre aussi, on a une bonne température. Donc, j'ai vu le thermomètre, on a 23-24 degrés. C'est bon.
C'est pas comme les 5 qu'il y avait donc l'autre nuit.
Non. Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent.
Alors, là, je vois que t'es équipé. Toi, t'as des couvertures, mais... Tu me disais qu'il y a les nouveaux arrivants qui peuvent venir, ne savent pas forcément ce que c'est une couverture.
Oui, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est une couverture et ils ne savent pas. Nous, on a des couvertures dans la chambre, mais les couvertures qu'on a, c'est pas vraiment trop efficace pour. Ça ne protège pas vraiment à 100% pour le froid. Donc, ensuite, c'est trop petit, il y a trop d'épais, quand on couvre, on sent vraiment que ça protège pas bien dans le froid.
Ça, c'est des couvertures qui sont fournies, que le CADA fournit, ou c'est des choses que tu as achetées toi-même?
Non, ce sont des couvertures que CADA il a fournies. Quand moi, je suis arrivé ici, j'étais arrivé à l'époque de l'été, et il y avait ces couvertures, mais je pense on n'a pas changé, ils n'ont pas encore changé les couvertures. Je ne sais pas s'ils vont changer, s'ils ne vont pas changer, mais... Pour le moment, on a ces gestions de couverture et on a des difficultés dans la nuit. Ça ne protège pas bien.
Et du coup, c'est dans toutes les chambres pareil ou est-ce que les autres personnes, vous en avez parlé entre vous, tout le monde a froid des fois quand la nuit, le chauffage se coupe?
Oui, dans toutes les chambres, je ne pense pas. Il y a certains qui ont changé leur couverture. Ils ont acheté leur couverture propre et approprié pour le froid, et il y a certains qui n'ont pas acheté, parce que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas acheté, et moi aussi, j'ai les mêmes couvertures que j'ai rencontrées ici, je l'utilise, c'est le même couverture, mais je n'ai pas le choix, donc ça.
Mais Adriano, merci, puis à bientôt.
Oui, merci vraiment de passer ici, de venir nous visiter, vraiment merci, c'est très gentil. Voilà, je pense que le message est passé. D'accord, merci vraiment.
C'était Adriano au CADA de Perlevade où la température descend.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière.
Tout de suite, on retrouve quatre élèves de l'école forestière de Meymac nous présentant la Meymacoise, une randonnée VTT qui partira du lac de Sechemaille le dimanche 4 mars. Ce projet s'inscrit dans le cadre de leur BTS et aura une importance non négligeable dans l'obtention de leur diplôme. Quel lien entre une randonnée VTT et un BTS technico-commercial, un projet d'initiative de communication?
Bonjour, la Meymacoise partira du lac de Sechemaille le dimanche 4 mars. Pour en parler, on reçoit Alexandre Quincé, Antoine Combel, Thomas Rancia et Dorian Mignard, tous les quatre élèves en deuxième année de BTS technico-commercial à l'école forestière de Mémac. Alexandre, Antoine, Thomas et Dorian, bonjour.
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 Alors, la Mémacoise, est-ce que vous pouvez m'en parler de manière générale, son origine, son nombre d'éditions?
Moi d'ailleurs, c'est déjà la cinquième édition. Elle partira, comme vous l'avez dit, du lac de Sechemaille. Et elle se déroulera toute la journée. Elle commencera le matin à 7h30 jusqu'à 10h30.
Quelle est la renommée de la course? Est-ce qu'elle a une dimension plutôt locale ou un peu plus grande, régionale peut-être?
Bon, on peut dire que c'est un peu plus grosse que locale, mais moins grosse que régionale. Et il y a quand même une centaine de participants chaque année.
Ouais, ça rassemble plusieurs communes en fait.
Oui, voilà.
Pourquoi le lac de Sechemaille?
Bah, c'est quand même un lieu mythique. Elle est déjà partie deux fois du lac de Sechemaille et ça a plutôt bien fonctionné. Alors pourquoi pas repartir de là-bas?
D'accord, on change pas une équipe qui gagne en fait.
Voilà.
Ok. Alors moi qui suis pas du tout du coin, je connais pas vraiment le lac de Sechemaille. On m'a dit que c'était un très bel endroit. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le cadre?
Oui, en effet, bah, c'est un lac qui est assez grand, plus d'une quarantaine d'hectares. Et après, on va monter au Mont Bessou par différents parcours, toujours dans le cadre du plateau de Millevaches.
Vous m'avez parlé de différents parcours. Il y a des difficultés échelonnées qui sont proposées?
Oui, on peut dire ça. Il y a trois parcours, donc de 20, 30 et 45 km. Donc oui, ça fait un peu, on va dire, des échelons. Après, tout le monde peut faire le parcours qu'il souhaite. Il y a pas, juste des difficultés, c'est la distance, quoi.
Uniquement à distance, pas de méga côtes super dures.
Bon, quelques-unes, mais voilà, après, c'est pas des grosses difficultés.
Donc, pas de grosses difficultés. Et concernant le déroulement de la journée, ça commence à quelle heure déjà?
7h30.
D'accord.
Il faut être là-bas à 7h30 pour commencer les inscriptions. La course part de 8h et les derniers départs se donnent vers 10h30.
Il y a des événements ponctuels qui viendront stimuler la journée un peu?
Non, pas du tout. Cette journée est banalisée pour la Mémacoise. Vous avez parlé des inscriptions. Pour les inscriptions, bah, on a fait un site internet pour vous inscrire directement en ligne ou sinon sur les réseaux sociaux comme Facebook. Ou sinon, vous pouvez venir sur place, venir chercher votre place. Voilà.
Concernant le repérage de la course et des différents parcours, ça en est où pour l'instant?
Ben, moi et mon équipe, on a déjà fait quelques repérages, notamment Alexandre Quincé, qui est déjà parti en vélo faire du repérage. Après, nous, on est parti en tout terrain pour essayer de choisir les circuits au mieux. Puis voilà, quoi.
Donc, tous les circuits ont été intégralement déjà faits et visités, pas de mauvaise surprise.
Après, comme c'est la cinquième édition, on a pris quelques circuits aussi, on a pris les circuits les années précédentes. Du coup, voilà. C'est...
Oui, et puis les circuits seront vérifiés avant la course. La semaine avant la course, on ira voir s'il n'y a pas eu des...
De changements
voilà,
majeurs.
S'il n'y a pas eu de changements, de branches qui dérangent le coureur.
Donc une course en toute sécurité.
Voilà, c'est ça.
Qui peut participer à cette course?
Tout le monde.
Pas de niveau sportif
Pas de niveau sportif, non.
Ouvert à tous.
Voilà, ouvert à tous, aux jeunes, tout le monde.
Au moins jeunes, en famille.
Voilà, c'est ça, en famille, aux enfants, tout ça.
Et concernant les participants des éditions précédentes, ça a rassemblé combien de personnes à peu près?
À peu près une centaine de personnes. Du coup, je vous laisse.
Oui, généralement, il y a une centaine de personnes qui viennent à notre randonnée, aller vraiment donner à tout le monde, chacun à son niveau. Voilà.
Et cette année, l'objectif, c'est combien? 1000 personnes, peut-être?
Non, on va rester sur une centaine. Après, c'est au niveau organisation où c'est un peu plus compliqué.
D'accord, oui. Pourquoi vous avez choisi d'organiser cette course?
On est tous des passionnés de la forêt, de la nature. Et on est plusieurs à faire beaucoup de vélo. Donc on a voulu tout réunir et faire visiter un peu la région grâce à nos parcours.
Donc c'est un parcours qui fait découvrir l'environnement autour du Mémac, c'est ça?
Oui, il y a le lac de Sechemaille où on va partir. Et ensuite, sur plusieurs parcours, il y aura quelques vues sur les montagnes et surtout la vue du Mont Bessou, où il se situe la tour du Mont Bessou.
Je vois que vous êtes seulement 4 pour prendre en charge la mise en place du parcours, le balisage, la surveillance, le montage et le démontage, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et c'est assez conséquent, mais on pense quand même réussir tout ce qui concerne le balisage, on pense pouvoir y parvenir.
Peut-être que des amis, des copains viennent donner un coup de main pour avant et après la course.
Oui, justement, on espère rassembler des bénévoles quand même pour nous aider.
Il y a une association derrière vous pour porter un peu le projet. Je pense notamment à tout ce qui est statut légal, assurance, autorisation administrative, toute la paperasse.
Oui, tout à fait. C'est l'ALESF. C'est une association du lycée.
C'est surtout les élèves du lycée qui gèrent l'association, en fait.
Donc, c'est une association gérée par les élèves du lycée.
Oui, et le président est un élève du lycée.
D'accord. Et qui accompagne les projets de l'école.
Voilà.
Est-ce que, là, comme vous êtes en phase finale du projet, est-ce que après coup, vous vous dites que c'était plus compliqué que prévu, peut-être ?
Non, on s'attendait déjà que ça soit compliqué. Puis d'ailleurs, on s'est bien renseigné sur les précédentes éditions, surtout celle de l'année dernière. Puis les élèves qui ont fait la 4e édition nous ont beaucoup aidé aussi à réaliser ce projet.
Ouais, donc vous avez été aidé, vous avez repris certains éléments des courses précédentes.
Oui.
J'imagine que vous avez rencontré quelques petites contraintes, des obstacles peut-être qui ont été un frein au déroulement du projet.
Oui, on en a rencontré plusieurs, mais jusqu'à présent, on a toujours su les surmonter.
Alexandre, Antoine, Thomas, Dorian, je rappelle que vous êtes toujours en deuxième année de BTS technico-commercial à l'école forestière de Mémac. Vous organisez cette course dans le cadre de votre cursus scolaire, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un projet PIC ?
C'est un projet d'initiative et de communication. Du coup, cela permet nous améliorer un peu pour tout ce qui est communication. Et voilà, c'est un peu tout.
C'est un projet qui s'incorpore dans le BTS, qui compte dans la moyenne, dans les notes ?
Oui, dans les notes. C'est une matière, en fait.
C'est une matière, carrément.
Et oui, on a déjà eu quelques notes sur ce projet.
Sur quels critères vous êtes noté ? Comment avoir une bonne note sur ce projet-là ?
C'est surtout la bonne explication du projet, puis un peu quoi qu'on se débrouille un peu tout seul quand même. C'est ça qui amène la bonne note, quoi.
Donc il faut une réussite globale du projet en réalité et une petite soutenance.
Oui, voilà.
Ouais. Auprès d'un jury peut-être.
Il faut bien garder toutes les étapes pour le représenter à la fin.
La difficulté, c'est non seulement réaliser le projet et savoir le présenter, l'expliquer.
Oui, voilà.
Donc l'importance de ce projet PIC pour l'obtention du diplôme, j'imagine que ça compte pour avoir le BTS.
Oui, c'est d'ailleurs un assez gros COEF pour l'obtention du BTS et ça marche par CCF en fait. C'est pas dans les épreuves terminales. Les CCF en fait c'est des contrôles en cours de formation qui peut nous valoriser pour obtenir le diplôme.
Donc c'est pas parce que c'est pas un examen sur table que c'est une matière à bâcler.
Oui, c'est d'autant important.
Oui, donc l'investissement est là quelque part.
Oui.
Après le diplôme, quand vous aurez votre BTS, est-ce que vous avez envisagé des poursuites d'études ou peut-être des métiers directement ?
Oui, moi j'ai envisagé de trouver un métier, de direct aller travailler après l'obtention de mon BTS. Plus dans le commerce du bois.
Le commerce du bois, oui.
Ou vente.
Moi, j'espère intégrer une école d'ingénieur forestier l'année prochaine, juste après le BTS.
Ça, c'est juste après le BTS, donc c'est une poursuite d'études, c'est ça ?
Voilà, si je réussis l'examen d'entrée.
Tu vises quel métier, en fait ?
Ingénieur forestier.
Ingénieur forestier.
Moi, je vais arrêter les études, je vais commencer à travailler. Donc, moi, je vais plutôt me diriger vers tout ce qui est coupe des arbres, débardage.
Donc ça, c'est une fois que tu as obtenu ton BTS ?
Oui.
Et donc, moi, continuer dans le commerce et poursuivre également sur une licence pro dans le commerce. Quoi.
Une licence pro, donc c'est après le BTS, c'est ça ?
Voilà, après le BTS, oui.
Tu vises des secteurs ou des métiers particuliers ?
Dans le commerce de bois, dans la négoce.
Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les horaires, les infos pratiques, les ravitaillements éventuellement ?
Durant la course, il y aura des ravitaillements. Des ravitaillements avec l'aide de certains sponsors comme Intermarché. Après, je vais vous faire la liste de tous nos sponsors comme le Cycle Doué, Gamme Vert, Crédit Agricole. Et voilà, c'est à peu près tout. Dans les ravitaillements, il y aura du café, de quoi se requinquer après la course ou pendant. Le départ aura lieu au lac de Sechmaille de 8h jusqu'à 10h30 pour les dernières les dernières.
Ça, c'est les différents échelons des départs, c'est ça?
Voilà, c'est les échelons des départs.
Entre 8h et 10h.
Donc, il y aura trois parcours, un de 20 km, un de 30 et de 45 km.
Et après l'inscription, elle se fait à l'ordre de 7 euros. Et après, les inscriptions peuvent se faire le jour J ou à l'avance au 06 25 90 42 14 ou sur la boîte mail, c'est lamemacquoise5@gmail.com ou sur notre site internet lamemacquoise.
Alexandre, Antoine, Thomas, Dorian, vous êtes toujours pour l'instant en deuxième année de BTS technico-commercial à l'école forestière de Mémac. Vous préparez votre projet PIC. Merci à vous d'être venu nous présenter la Mémacquoise qui sera au départ du lac de Sechemaille toute la journée du dimanche 4 mars. On vous souhaite une très bonne course. J'encourage tous nos auditeurs à venir encourager les courageux cyclistes qui pédaleront toute la journée. D'ici là, ben, on se retrouve dans un prochain magazine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir à vous.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière.
Sans transition, on passe dans un autre registre, un ensemble vocal situé à La Bussière cherche des choristes. Thierry Meunier nous présente cet ensemble.
Oui, voilà, aujourd'hui j'aurais aimé vous parler de notre petit ensemble vocal. Hein, voilà, nous sommes un groupe mixte, hein, c'est-à-dire des hommes et des femmes, d'à peu près entre 12 et 16 chanteurs, idéalement. Dans toutes les voix, hein, c'est-à-dire les sopranes, alti, mezzo, ténor, basse. Voilà.
Alors vous chantez quoi exactement?
Alors nous interprétons des œuvres a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement, nous n'avons pas d'instrument, en polyphonie, c'est-à-dire avec plusieurs voix, ça peut être 3, 4, 5, même des fois 6 ou 7 voix. Et nous, notre répertoire, eh bien, on essaye, ce sont que des œuvres relativement courtes, hein, qui font entre 3 et 5 minutes chez chacune, que l'on va chercher principalement chez des compositeurs, hein, des compositeurs reconnus, hein, comme, je ne sais pas, ça peut être Gershwin, Alphen, Grieg, Mozart, etc. Bien qu'on ait une certaine tendance, là, depuis certains temps, à nous intéresser surtout à des œuvres du 19e et 20e siècle. Voilà, donc beaucoup de contemporains, de toutes origines, hein, de tout pays, dans toutes les langues, que ce soit du finlandais, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, du portugais, il y en a même en français.
Combien de personnes constituent votre ensemble vocal?
Donc idéalement, on souhaite être entre 12 ou bon, 14 personnes, voilà, ce serait notre idéal, en ayant l'équilibre homme-femme. Hein, voilà, 6 femmes, 6 hommes, c'est formidable.
Et donc aujourd'hui, ce chiffre n'est pas atteint?
Alors aujourd'hui, voilà, nous recherchons des choristes, bon, je peux dire principalement dans les voix aiguës, donc soprane ou basse. Voilà, c'est principalement dans ces deux voix, mais je dirais que on peut également accueillir d'autres voix, même si pour l'instant c'est pas notre priorité, mais on est toujours content de connaître des nouveaux chanteurs.
Alors comment s'appelle cet ensemble vocal?
Alors justement, on avait choisi un nom qui essaye de nous décrire un petit peu, c'est-à-dire un joyeux groupe, voilà, on aime beaucoup chanter, mais on aime bien aussi s'amuser, on aime bien rigoler. Alors on a appelé notre ensemble Sacré-Cœur, avec un point d'exclamation à la fin, voilà, on est un Sacré-Cœur.
Et quand est-ce que vous vous réunissez pour chanter?
Alors les répétitions ont lieu 3 fois par mois, les mardis soirs. Et on intercale des répétitions avec tout le monde et des répétitions uniquement avec les hommes ou bien uniquement avec les femmes. Donc c'est le mardi soir et ça a lieu à La Bussière. La Bussière, c'est sur la commune de Saint-Pierre-Bellevue, en gros entre Chavanas et Royères-de-Vassivière.
Est-ce qu'il faut avoir des conditions particulières pour chanter? Tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous?
Alors, disons que... Un débutant, pourquoi pas, mais quelqu'un qui soit vraiment très très motivé. C'est-à-dire que la lecture de la musique, c'est un plus, c'est clair. Par contre, nous demandons des chanteurs qui soient, qui puissent répéter de façon autonome. Hein, on met à disposition des outils qui aident à répéter, mais il est certain que si ce sont des personnes qui ont déjà une bonne expérience de la chorale, c'est mieux. Maintenant, eh ben, il faut se lancer des fois. Hein. Nous avons des gens qui n'avaient pas chanté avant, mais qui se sont bien accrochés, qui se sont dit « Allez, on chante. » on essaye de faire de notre mieux.
Et pour se lancer, justement, comment vous contacte? On vous trouve où?
Alors, donc déjà, mon nom, hein, Thierry Meunier. Alors, je ne sais pas si je peux donner mon numéro de téléphone. Hein.
Tout à fait.
Voilà, mon numéro de téléphone, c'est le 05 55 64 93 77. Hein, 05 55 64 93 77. Et le mieux, je crois que c'est de m'appeler au téléphone déjà pour discuter, pour voir. Et puis, pourquoi pas venir une fois à une répétition pour voir ce que c'est? Et puis, ça n'engage à rien. En général, c'est toujours très sympathique. On ne fait pas que chanter, hein, d'ailleurs. Très souvent, on boit un coup, on mange ensemble. Enfin, voilà. Donc, bienvenue si vous vous sentez motivé pour chanter avec nous.
Thierry Meunier pour l'ensemble vocal Sacré-Cœur à La Bussière à propos de leur recherche de choristes. Si vous voulez chanter avec eux, contactez-les par téléphone au 05 55 64 93 77.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière.
Des militants de l'association ATTAC ont été attaqués en justice à Paris par la très grande entreprise américaine Apple. Les militants ont alerté les clients d'Apple dans les magasins sur l'évasion fiscale pratiquée par Apple, qui représente plusieurs milliards de dollars. Pour nous présenter ce sujet, Benoît Matelot de ATTAC Haute-Vienne, qui nous a raconté cette histoire au téléphone ce lundi après-midi.
Ce qui se passe aujourd'hui, 12 février, il y a une comparution d'attaque par Apple au niveau du tribunal de grande instance de Paris suite aux occupations de magasins qui ont eu lieu le 2 décembre 2017. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Apple a détourné ou n'a pas payé 13 milliards d'impôts en fait à la France, puisqu'elle délocalise et a fait des manipulations fiscales pour ne pas payer des impôts. Donc, suite à ça, elle a une amende de Bercy et refuse de payer. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, et il y a eu des actions un peu partout en France, on a mis la lumière sur cette tricherie fiscale le 2 décembre, qui était la date de sortie, en fait, du dernier iPhone. Et du coup, on a distribué, on a occupé des magasins, etc. Donc à Limoges, on a distribué devant un magasin Apple, mais sur Paris, ils vont occuper des magasins. Et en fait, là-dessus, Apple a porté plainte derrière contre-attaque pour occupation des magasins. Et ils demandent en fait, si on doit réoccuper des magasins, une astreinte de 150 000 euros par jour au niveau de l'occupation pour nous interdire de faire ce genre d'action. Donc nous, aujourd'hui, on n'a rien fait sur le Limousin. Par contre, on soutient pleinement l'action et on est en soutien aux personnes qui vont comparaître aujourd'hui à Paris, compte d'ailleurs à l'heure qu'il est, ça doit être terminé. Et par contre, on pose aussi la question, c'est qu'il y a une justice de classe, parce que aujourd'hui, c'est des militants qui vont être attaqués par Apple avec le soutien de l'État pour avoir dénoncé de la tricherie fiscale et l'évasion fiscale, et pendant ce temps-là, Apple est toujours pas inquiété par l'État par rapport à son évasion fiscale et à ses pratiques. Et ça nous gêne un petit peu. Donc après, on profite aussi de l'occasion pour en remettre une couche et dire que Apple ne paye pas ses impôts en France. Et à côté de ça, il y a des fermetures d'écoles, il y a des fermetures de gares, il y a des fermetures de lits dans les hôpitaux, etc. Et après, on va dire il y a pas d'argent. Donc à un moment, ça peut pas fonctionner comme ça, le système.
Vous avez d'autres idées pour agir face à une entreprise aussi énorme?
Ben après, si on peut pas occuper les magasins, on les occupera pas. On ira dans la rue, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. Il y a des moments où on va dans les zones, là où il y a des commerces, alors pas sur les zones commerciales, mais en centre-ville ou des choses comme ça pour en parler. Après, on n'a pas besoin de rentrer dans un magasin Apple pour en faire parler, mais c'est vrai que sur Paris, occuper un magasin Apple, ça marque les esprits et ça fait parler du mouvement. Malheureusement, pour nous faire entendre, on est obligé de faire ça par moment. Donc c'est ça qui est gênant. Alors à Limoges, le 2 décembre, nous, on a simplement fait de la distribution devant le magasin. Alors ça a un petit peu dérangé les propriétaires du magasin, mais à côté de ça, on n'a pas fait, on n'a rien vandalisé, on n'a rien dégradé. On a juste informé et puis les médias étaient là pour relayer. Donc c'est ce qui est important dans ce genre de choses, c'est que ce soit relayé par les médias pour que le plus grand nombre de personnes puissent être au courant de ce qui se passe, quoi.
C'était Benoît Matelot, membre de Attaque Haute-Vienne, qui nous parlait de l'assignation de l'association Attaque par l'entreprise Apple, qui paye très peu d'impôts par rapport à ce qu'elle gagne.